VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, au moins 2 franco-gabonais ont été relâchés ce mardi à Libreville par le tribunal chargé de traiter les cas des centaines de personnes interpellées dans les violences post-électorales au Gabon, dans le pays, il y a depuis 6 jours. Les deux frères, Baptiste, 29 ans, et Cassien, 25 ans, arrêtés jeudi à Libreville, ont recouvré la liberté après comparution devant 3 magistrats pour un rappel à la loi. Ils font partie des dizaines de personnes qui défilent à la barre en présence de leurs proches, soulagés d'avoir enfin des nouvelles après les avoir cherchés pendant près d'une semaine dans les commissariats et les hôpitaux. Le chef du gouvernement français Manuel Valls avait fait état aujourd'hui de la disparition d'une quinzaine de franco-gabonais et réclamé des informations à leur sujet. Il avait fait aussi des commentaires sur l'impasse politique dans le pays, John Lyndon.
Le premier ministre français Manuel Valls a souhaité mardi sur la radio RTL un nouveau décompte des voix du scrutin présidentiel à un tour du 27 août dernier. Une position qui rejoint celle de l'opposition gabonaise, de plusieurs autres diplomates étrangers et des diverses institutions internationales. Le pouvoir, lui, refuse tout recomptage en arguant que la loi électorale ne le prévoit pas. L'Union africaine s'est dite prête à envoyer au Gabon une délégation de haut niveau composée de chefs d'État africains pour trouver une solution à la crise. Sur le terrain, Jean Ping, qui s'est proclamé président élu, a lancé un appel virulent à une grève générale pour bloquer l'économie du pays et faire tomber le tyran. Hier, un Ivoirien accusé d'avoir manipulé les résultats de l'élection a été arrêté au QG de Jean Ping. Alors que dans le même temps, Séraphin Moutonga, poids lourd du gouvernement et ministre de la Justice, démissionnait. Aucun trouble majeur n'était signalé mardi à la mi-journée dans la capitale Libreville.
En RDC, l'armée nationale congolaise, les FRDC, a repris plusieurs villages et axes routiers autrefois occupés par les rebelles islamistes ougandais des forces démocratiques alliées, ADF, dans la région de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. La population est déterminée à revenir dans les zones libérées, en particulier le secteur riche en cacao, malgré l'instabilité de cette région où plus de 600 civils ont été tués depuis octobre 2014. Notre correspondant sur place, Charlie Kasirika, a suivi les FRDC en pleine forêt pour rencontrer les courageux villageois qui résistent aux menaces des éléments armés. Son reportage.
Pour atteindre ces positions et villages, nous quittons la nationale numéro 4 pour une route secondaire qui mène vers la frontière ougando-congolaise. L'officier Nyanyi Kasongo dirige l'une des unités spéciales qui combattent les ADF depuis octobre 2014. Fait le guide.
Ça ne pourrait pas s'expliquer d'ici la nationale numéro 4 et à 2 km se trouve l'ennemi. Voilà, c'est là où il y a eu le début des opérations contre les ADF Nalu, c'est-à-dire l'axe Mbau-Kamango. C'est le début du triangle de la mort.
Dans cette brousse, certaines positions jadis occupées par les ADF, aujourd'hui entre les mains des FRDC, l'ambiance est au rendez-vous. Les cultes y sont improvisés, question de maintenir la morale des troupes au front. Une heure après, nous voici dans la localité Totolito, au PK-45. Il y a une année, cette localité était le centre des opérations de cette rébellion d'islamistes et des ADF. Ici, la vie a repris son cours normal à plus de 50%, mais les villages manquent de tout, comme le dit ici le chef de localité, Palou Kuchuma.
Nous sommes maintenant une centaine d'habitants. Dans tous ces villages, nous n'avons maintenant aucune installation sanitaire, moins encore une école. Tout a été détruit par les ADF. Nous n'avons pas encore l'accès total à nos champs. Nous y allons sous la vigilance de nos militaires.
Sur cet axe, le trafic a repris. Les jeunes taximens se retrouvent et gagnent facilement leur vie après les contrôles de la zone par les FRDC.
Depuis 2007, j'ai fait des trafics sur cet axe. Auparavant, quand les rebelles contrôlaient les milieux, c'était difficile pour moi de réaliser même ces 20 dollars le mois.
Avant de quitter les villages, on nous fait visiter la mosquée de 10 mètres sur 4 construite au milieu des feuilles de cacao où les villageois étaient obligés de faire la prière. Pour accompagner et inciter la population à revenir dans les villages, les éléments FRDC qui contrôlent la zone construisent une école qui va accueillir une centaine d'écoliers pour ces 30
rentrée scolaire.
Nous contribuons dans le cadre de l'entretien des routes. Il y a aussi une école qui est appuyée par rapport à nos moyens de bord.
Yvon Ramazani, du cabinet de la présidence, envoyé dans la région pour évaluer la situation, pense que l'espoir est permis pour cette population entourée d'une forêt, des bois rouges et du cacao.
Nous sommes à 45 km de Beni. D'abord, il y a un problème de communication. Et il faut pacifier les alentours. Et pour que l'économie puisse se reprendre, il fallait qu'on soit ici, qu'on voit ce qui se passe et qu'on dise en face du monde que réellement notre armée a guéri et notre armée travaille.
Le 13 août dernier, plus de 50 civils ont été massacrés dans un quartier proche de Beni. L'armée et la police congolaise viennent de renforcer leurs troupes dans la région pour rassurer la population. Et Charlie Kasereka, des retours de Beni pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, plusieurs ministres du dernier gouvernement du président déchu Blaise Compaoré ont été entendus ce mardi par la gendarmerie nationale. C'est dans le cadre des enquêtes de la commission rogatoire de la Haute Cour de justice sur l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a conduit au renversement du président Compaoré. Plus de détails avec notre correspondant Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Depuis un moment, des voix s'élevaient de plus en plus au Faso pour dénoncer le fait que la justice traînait trop les pas dans les enquêtes sur l'insurrection. Eh bien, depuis ce matin, les lignes ont commencé à bouger avec la convocation à la gendarmerie nationale des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Ainsi ont été auditionnés Baba Hama, ministre de la Culture, Alain-Édouard Traoré, porte-parole du gouvernement, Jean Kouldiati, du développement de l'économie numérique, Diem Djoda Diko, de l'éducation nationale, Mahama Zungarana de l'agriculture, Toussaint Abel Koulibaly de l'aménagement du territoire, Bounessan Arsène Yé, le ministre des réformes politiques. Ces auditions font suite à la mise en accusation par le Parlement de la transition du dernier gouvernement de Blaise Compaoré pour coups et blessures volontaires, complicité de coups et blessures, assassinat et complicité d'assassinat. Car c'est ce gouvernement qui avait adopté le 21 octobre 2014 le projet de loi portant modification de la Constitution, ce qui a entraîné l'insurrection populaire les 30 et 31 octobre. Insurrection qui a fait officiellement une trentaine de victimes. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Niger, près de 7 ans après la défaite du mouvement des Nigériens pour la justice, constitué de Touareg et de Toubou, le Niger va-t-il connaître une nouvelle rébellion dans le nord ? Adam Tchaké, un ex-lieutenant du célèbre Barka Ouagadougou, qui a dirigé un soulèvement Toubou dans les années 1990, semble en avoir l'ambition. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ce septuagénaire annonce la réactivation de son mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger, fondé en 2008. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, a visionné pour nous cette vidéo.
Dans la vidéo qui dure 2 minutes et demie, celui qui se présente comme le président par intérim annonce que le moment venu, ils vont attaquer le Niger. Le mouvement se nommerait « Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger ». 4 jeunes armés enturbanés et des véhicules derrière lui, il dit avoir 2 points de revendication. Des droits au gouvernement du Niger et des droits de la part de la société chinoise qui extrait le pétrole dans l'est du Niger, la CNPC. Adam Tchékémi indique avoir relancé ce mouvement créé en 2008 parce que n'ayant aucune occasion de dialoguer avec les autorités. Ceux qui le connaissent disent qu'il est un proche du défunt Barka Ouagadougou, redoutable chef de guerre des rébellions des années 1990 au Niger. Un élément de la communauté Toubou, joint par VOA Afrique, estime qu'il faut prendre au sérieux ces menaces parce que c'est une situation prévisible au vu de ce qui se passe actuellement dans la zone. Pour un autre, il s'agit juste d'un moyen de chantage, notamment à la compagnie chinoise CNPC. Tous les deux localisent sans précision ce monsieur dans les montagnes situées aux frontières entre la Libye, le Tchad et le Niger, zone que partagent les communautés Toubou de ces 3 pays. Le gouvernement nigérien n'a pas encore réagi à cette vidéo. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et pour terminer, en Somalie, Mogadiscio s'apprête à abriter ce week-end le 53e sommet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement. Et ce, pour la première fois après des décennies de guerre civile et d'instabilité. Les leaders de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie, du Soudan du Sud, de l'Ouganda et du Soudan vont axer leurs discussions sur les progrès politiques et sécuritaires en Somalie, ces élections en 2016, ainsi que sur la crise politique au Soudan du Sud. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.